Voilà, il est toujours important de commencer vos réunions de Lectio Divina justement par la prière, et le psaume 8 est un bon exemple justement de psaume de création, puisque la parole de Dieu dans la Bible sur la création ne s'arrête pas au chapitre que nous allons méditer, mais il y a encore bien d'autres récits, notamment des récits de sagesse, mais aussi des hymnes qui parlent de cet acte créateur de Dieu. Et donc on est invité aussi, dans vos temps de méditation, aussi à prier à partir de ces psaumes, comme Jésus l'a fait aussi en son temps. Alors, bienvenue. Comme je vous l'ai dit, je suis le père Alexandre Brouillet. Je vais vous présenter donc le livret de cette année qui porte donc sur le récit des commencements. Je vais expliquer un peu aussi le titre. Mais d'abord, je voulais vous dire pourquoi, avec l'équipe de la formation permanente, nous avons choisi le livre de la Genèse pour cette année. Alors d'abord, c'est que l'an dernier, souvenez-vous, ici même, Véronique Westerlob, qui était ici, nous a présenté un livret sur les écrits johanniques, et particulièrement donc l'Apocalypse de Saint Jean, et on l'avait vu, hein, Véronique en avait parlé, l'Apocalypse de Saint Jean, et Saint Jean lui-même fait beaucoup usage du livre de la Genèse. Il emploie beaucoup d'images, hein, le serpent revient, comme je vous l'ai écrit, l'arbre de vie, Babylone, toutes ces images sont collectées par Saint Jean pour avant tout exprimer sa foi en Jésus-Christ. L'utilisation qu'il en fait des Écritures, notamment de la Genèse, c'est pour montrer aux hommes que le Christ est puissant et vainqueur du mal et de la mort. Et donc on s'est dit, vu qu'on a on a clôturé le Nouveau Testament par l'Apocalypse, il est bon de revenir, puisque le Christ lui-même le dit, c'est fait, moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Vous voyez, le mot commencement, juste ici, c'est le mot arché, c'est le premier mot dans la Genèse. Le premier mot de la Genèse, arché, donc enarché, donc au commencement, et c'est aussi le premier mot de l'Évangile selon saint Jean. Donc voilà, on a un retour en tout cas au commencement par la fin, disons. On est appelé aussi à reméditer un peu donc ces textes. On a choisi aussi ce texte à cause de l'importance, l'invitation du pape François à nous ressaisir de la question de l'écologie dans notre vie. Le pape François, en 2015, a sorti une encyclique, vous le savez, Laudato si, qui nous invite à faire attention, en tout cas, à notre environnement, qui est la création de Dieu, et il le cite pas mal. Je vais vous faire une citation, je vais vous lire une citation au numéro 66 de Laudato si. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds enseignements sur l'existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales, intimement liées, la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L'harmonie entre le Créateur et l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue conflictuelle. Et voilà, ces mots du pape François dans Laudato si vont résonner un peu dans votre méditation, hein. S'y appuyer aussi, hein, pour un peu montrer comment cette histoire peut nous aider à nous interroger sur notre relation avec le monde, avec cette création que Dieu a voulu. Mais peut-être la principale raison, Christophe en a parlé au début, c'est que en réalité la Genèse est un monument littéraire mal connu que nous croyons savoir. Nous croyons savoir parce que, pour un certain nombre d'entre nous, au catéchisme, on ne nous a pas enseigné la Bible, mais l'histoire sainte. C'est-à-dire que depuis le Moyen-Âge à peu près, l'histoire était une discipline théologique. Comme vous savez, au XIIIe siècle, la philosophie et la théologie se sont séparées, mais l'histoire et la théologie, non. Si bien que les grands historiens du Moyen-Âge, de l'Antiquité et du Moyen-Âge, comme ici particulièrement en Touraine, Grégoire de Tours, qui était évêque ici et qui était aussi historien, commence, Grégoire de Tours, dans l'histoire des Francs, il commence son histoire par Adam et Ève, et il remonte Caïn et Abel, Noé, et ainsi de suite. L'histoire était véritablement une discipline théologique et qui était transmise par les moines et les prêtres à travers l'art sacré, notamment dans nos cathédrales, nos belles cathédrales. Nous avons une quantité de vitraux qui représentent ces scènes de l'histoire biblique. Là, je vous ai mis un vitrail de Notre-Dame de Paris qui représente donc la création d'Adam, la création d'Ève, de la côte, le mystérieux sommeil d'Adam et Adam et Ève chassés du paradis. Et donc, nous allons à la Bible avec aussi toute cette histoire de notre passé, de notre pays, et qui a été transmise par les moines petit à petit. Et au XIXe siècle encore, on enseignait à l'école l'histoire sainte, en commençant par Adam, Ève. Mais au XVIIIe siècle, nous avons donc l'émergence de l'histoire comme une discipline autonome et qui va venir critiquer, soulever des questions sur cette histoire sainte, justement, à travers notamment les découvertes archéologiques qui ont été faites en Mésopotamie ou en Terre Sainte. Donc, cette vision du monde de cette histoire sainte va être bousculée à la fin du XIXe siècle et les théologiens vont devoir un peu comprendre cette histoire biblique de manière autre. Et cette crise, ça a un nom, c'est la crise moderniste, l'émergence de l'histoire dans la théologie, l'histoire telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça va donner une grande crise dans l'Église. Et aujourd'hui encore, cette question n'est pas vraiment réglée. Aujourd'hui encore, on voit ce genre de choses. Alors vous voyez, vous avez un dinosaure avec un être humain à côté. Cette photo, elle est issue du musée de la création qui est dans le Kentucky. Et donc, c'est des évangélistes créationnistes américains qui ont recréé donc une arche grandeur nature, disons. Et donc, comme ils sont contre l'idée de l'évolution, comme ils sont contre l'idée des idées scientifiques que nous révèlent les scientifiques, comme le Big Bang, ils vont reproduire des images comme celle-ci. Donc, on voit un dinosaure et un être humain en même temps. C'est pas logique au niveau de l'histoire, vous le comprenez bien. Donc, on est encore dans ce combat, et notamment avec nos contemporains, qui soient chrétiens ou non chrétiens, ont une vision très littérale des récits bibliques, s'ils les connaissent. Parce que généralement, en réalité, ils connaissent plus les récits bibliques à travers des films, les 10 commandements, ça c'est un film de 2014 sur Noé, donc on les connaît à partir d'images, plus qu'à partir du texte. Mais en tant que chrétien, s'il y a un premier don que Jésus-Christ nous fait après la résurrection, c'est bien de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures. C'est dans l'Évangile selon Saint-Luc, dans les récits d'Emmaüs, les pèlerins d'Emmaüs vont avoir l'esprit ouvert à l'intelligence des Écritures. Et donc, cela signifie que cette compréhension des Écritures est une véritable fonction du baptisé, en tout cas. Le baptisé se doit de comprendre ces Écritures, et pas seulement les films ou les idées qu'on en a. Et donc, cette fonction d'interprétation, elle fait partie de notre identité de baptisé.